Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Choc.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Volet concours du festif de Baie-Saint-Paul. Un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 $ en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca/cabaret pour visionner les performances des 3 finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Les cabarets festifs et Choc.ca font la paire pour la relève.
Pour faire le plein de nouveautés musicales, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 20 février au 8 mai, réservez vos lundis pour découvrir les 21 participants de la cuvée de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Sur scène, 3 artistes ou formations par soirée, en plus d'un invité surprise. Pour tout savoir sur la programmation, visitez francouverte.com. Cette année, quels seront vos coups de cœur musicaux? Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue à Pop en Stock, c'est l'épisode 131 et ce soir on parle d'humour et de femmes. Je m'appelle Hélène Lorrain, mais tout d'abord on est le 8 mars, c'est la fête, c'est la journée internationale des droits des femmes, donc c'est pour ça qu'on a pensé faire une émission humour et femmes aujourd'hui. Et on va commencer par écouter une humoriste qui est très populaire ces temps-ci, qui s'appelle Mariana Mazza. Et ça va poser un peu les enjeux de qu'est-ce qu'on va parler durant la prochaine heure.
J'ai pas eu le choix de me venger, parce que toutes les femmes de ce monde, on se venge. Il y a pas une fille dans la salle ce soir qui s'est pas vengée. On se venge toute la gang, parce qu'on n'a pas le droit de se fâcher. C'est vrai. On n'a pas le droit de se fâcher quand on est une femme. Il y a une convention qui s'est faite quelque part, genre à Genève, qui dit que les femmes, on n'a pas le droit de se fâcher. Parce que dès qu'une femme se fâche, il y a tout le temps un gars qui est là pour justifier nos frustrations avec des phrases préconçues. À toutes les fois. Moi, à toutes les fois que je refuse une avance sexuelle à un gars, le gars finit tout le temps par me dire « T'es quoi, man? Es-tu lesbienne? » Et moi, ça me dérange pas que tu me traites de Gwyn. Le problème, c'est que tu te bases sur absolument rien de concret pour le faire, tu sais. Moi, quand je veux embrasser un gars puis le gars veut pas m'embrasser, je le traite pas de tapette. C'est pas ça la vie, tu comprends? Je fais la chose normale. Je cours en plein milieu de la rue en criant « Pourquoi? » Parce qu'on peut pas se fâcher. Quand t'es une fille, on peut pas se fâcher. Parce que dès que tu te fâches, il y a tout le temps un gars qui est là pour justifier nos frustrations avec des phrases de marde. Hein, les filles, on l'a toutes déjà entendu au moins 50 fois, celle-là. Ben, c'est normal qu'elle est frustrée. Là, parle-y pas, là, elle est dans sa semaine. Au moins 50 fois, on l'a tout entendu. Ou sinon, la classique, ben, normal qu'elle de même, mais mal baisée. Mais là, il y en a une nouvelle qui est sortie. Et elle est officielle. Je l'ai lue dans un article de journal. J'ai vu un papier qui a été fait dessus. Et il y a même un gars qui m'a dit dans les yeux un soir, et je cite, « Man, relax, là, c'est quoi? T'as-tu du sable dans le vagin? » Moi, c'est sûr qu'en écoutant ça, j'ai dit, « Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? J'ai pas compris. » Et il m'a dit, c'est quoi, man? T'as-tu du sable dans le vagin? Et là, je m'excuse. Je sais que j'imite le gars comme si c'est un attardé mental. Je suis vraiment désolé. C'est juste que dans la vie de tous les jours, si tu prononces une question comme ça, c'est sûr que tu parles pas en alexandrin, hein? T'es comme, demoiselle, vous semblez un peu ma boule. N'auriez-vous pas un peu de sable dans la moule? Ben non, c'est jamais arrivé. Sable dans le vagin, pour vrai. Sable dans le vagin. Sable dans le vagin, messieurs, c'est le plus original que vous avez trouvé. Et on dit souvent ça à des femmes qui s'insurgent socialement, hein? Comme Denise Bombardier. Denise Bombardier a du sable dans le vagin. Et c'est normal que Denise Bombardier ait du sable dans le vagin. Elle a un condo en Floride. Mais sable dans le vagin, pour vrai. Pour vrai, pourquoi tu me demandes pas si ma journée a mal été à la place d'insinuer que j'ai laissé expressément du sable à l'intérieur de mon vagin? Ouais, fait que ça fait qu'un matin, je me sentais pas bien. Fait qu'en m'en allant en job, je me suis arrêté dans un carré de sable, débaissé mes culottes, puis je me suis dandiné jusqu'à ce que j'aie plein de sable dans le vagin. Puis, tu te sens-tu mieux? Vraiment. Colle ton oreille sur ma noune, on entend la mer. Ben non, tabarnak.
Marina Mazza, qui est une humoriste très populaire, puis, mais néanmoins, elle choque. Néanmoins, il y a souvent des commentaires comme de quoi elle va trop loin. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle a fait une...
Oui, c'est un peu dommage pour aujourd'hui, là.
Oui, c'est un peu dommage pour aujourd'hui. Donc, pour vous mettre au courant, elle a fait un post spécial pour le 8 mars. Et elle, en fait, c'est sa face transformée en plusieurs femmes racisées.
Ben, puis, ouais, en tout cas, c'est pas clair. C'est un peu très stéréotypé en même temps. Là. Ce serait une Amérindienne parce qu'elle a des tresses.
Puis un collier, un boulot taille.
Genre. <t'sais>.
Bravo, c'est ça. Donc, mais bon, au-delà de ce poste d'aujourd'hui...
Ce pas en arrière.
Il y a quand même la fois qu'elle a fait le fuck you aux Olivier. Je veux dire, c'est quelque chose qui est mal vu. Puis en fait, il y a plusieurs enjeux... pour les femmes en humour. Mais avant d'aborder ce thème-là, je vais présenter les invités de ce soir. On a Joanie Bérubé, qui est étudiante en stratégie de production à l'UQAM.
Oui, exactement. Allô?
C'est la première fois qu'on le voit. Je suis très contente de
ben
te voir.
Oui. Puis si ma chronique n'est pas bonne, ben je reviendrai pas, promis.
Oh, ben là...
Non. On dit pas ça. On dit pas ça aujourd'hui. On dit pas ça n'importe quel jour de l'année, en fait. Joyce Baker, qui est étudiante en littérature à l'UQAM.
Bonsoir, oui.
Oui, je me trompe pas.
Au doctorat.
Yes. Et Sandrine Galland, qu'on a déjà entendue à Pop en Stock, et qui est aussi étudiante en littérature.
Oui, collègue de Joyce.
Oui, parfait.
Ouais.
Donc, Et donc, toutes ces personnes-là vont nous parler des différents problèmes que les femmes, quand elles font de l'humour, quand elles veulent rire, quand elles veulent faire rire, rencontrent. Et en fait, même quand on pense à ce problème-là, ça part quand même de loin. Il y a très peu de femmes superstars humoristes. Là, il commence un peu plus à y en avoir au niveau mondial, mais pendant des années, ça a été juste des hommes. Donc déjà, au niveau quantitatif, il y en a beaucoup moins, ce qui peut beaucoup décourager certaines aspirantes humoristes à juste aller sur scène. Donc, elles se rabattent sur une carrière de clown de salon. Ça, je pense qu'on en connaît toutes, des tantes rigolotes ou des mamans rigolotes. Mais des femmes qui osent prendre le micro, il y en a quand même beaucoup moins. Il y a un enjeu de base. La bonne féminité, une bonne, entre guillemets, une femme valide, une femme legit, c'est pas une femme qui se met en valeur. Donc, c'est une femme qui ne rit pas trop fort, qui ne rit certainement pas comme une bûcheronne. C'est déjà juste le fait qu'on dit comme quand on rit fort, qu'on soit des bûcheronnes, c'est quand même déjà très révélateur. Et en deuxième lieu aussi, c'est pas des femmes une bonne féminité, c'est pas une féminité qui fait rire. Donc c'est pas une féminité qui rit et c'est pas une féminité qui fait rire. Et ça, il y a selon Lucie Joubert, qui est une chercheuse en littérature à l'Université d'Ottawa, une professeure, il y a quand même ça, des raisons donc sociales, mais aussi d'ordre rhétorique et idéologique. Souvent, les femmes, c'est les objets de blagues. Comment on passe d'objet de blague à sujet de blague? C'est le sujet donc, qui prend la parole et qui ose aller devant. Donc, il y a tout un contrôle qui s'installe de ne pas trop choquer les gens, de ne pas trop choquer les autres qui pourraient toujours nous traiter d'hystériques, d'histrioniques. Donc, aussi, de tout le temps ramener ça à une espèce de sphère de séduction hétérosexuelle aussi. Une femme qui fait trop rire, c'est pour attirer l'attention, c'est pour attirer l'attention des gars en particulier. C'est souvent quelque chose qui est dit de l'avant.
Oui, et puis, femme qui rit, femme au lit aussi, on peut dire l'inverse. Oui, là, faire rire les femmes, c'est les rendre disponibles sexuellement.
Oui, c'est quelque chose... Mais il faut rire poliment aussi, quand même.
Oui,
pas
ben
trop.
Oui.
Oui, c'est bien fait. Et aussi, justement, toutes les questions, j'en parlais au début, donc la quantité, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, mais ça aussi, ça rapporte à la question du contrôle de qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là. Quand on est minoritaire, quand on se sait minoritaire, quand on sait que tout ce qu'on peut dire peut être à quelque part un peu retenu contre nous, il y a vraiment une grosse question de contrôle. Et moi, j'ai l'impression, depuis peut-être 2-3 ans, particulièrement avec Amy Schumer, Lena Dunham, qu'il y a un éclatement, et Marianne Mazza aussi, au niveau au Québec, de vouloir faire éclater ce que les femmes peuvent dire en faisant rire.
Si tu continues, on n'aura plus rien à dire.
Là. OK, mais je...
Mais non, tu la continues!
Mais c'est ça comme mon introduction. C'est ça mon introduction, finalement. Et là, je laisse la parole à Sandrine et Joyce qui veulent faire une discussion par rapport à leur propre sujet.
Ben en fait, on a quand même rédigé un petit truc, mais tu sais, on voudrait quand même t'inviter puis Joanie aussi à nous interrompre. Puis,
bien sûr,
ce qui est après, en tout cas, vous allez bien voir. C'est moins une discussion qu'on se répond, mais... Bref, parce qu'effectivement, Joyce et moi, il faut savoir qu'on s'est rencontrés au troisième cycle, hein, dans un colloque d'ailleurs, que Joyce avait co-dirigé avec une autre pop-en stockeuse, mm-hmm. qu'on a déjà rencontrée ici, Fanny Demeule. Et ça a été une rencontre très importante parce que les rencontres, les amitiés et les collaborations féminines sont précieuses au cycle supérieur pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment le sujet de la chronique, mais disons seulement pour résumer que les systèmes d'oppression liés au genre, ça ne s'arrête pas aux portes de l'université.
Ah! Non, je fais des blagues. Non,
je sais. Et c'est pourquoi, en cette journée internationale des droits des femmes, il était primordial pour nous deux de faire une chronique à deux voix, à quatre mains, qu'on pense ensemble, d'aller à la rencontre de nos deux sujets d'études et de nos intérêts personnels dans ce qui va les rassembler, mais sans les unifier ou les aplanir. Parce que, en fait, Joyce et moi, on a beau être deux passionnés de la culture pop, en matière d'humour, on se situe chacun de notre côté de la frontière. Joyce travaille sur la figure de la femme ingouvernable dans l'humour au Québec, alors que moi, je m'intéresse par la bande, c'est pas central, mais par la bande, à certaines femmes de la comédie américaine. Donc, moi, je vais visionner des comedy specials sur Netflix ou des late-night shows d'hiver, pendant que Joyce, elle, va aller dans les soirées d'humour et connaît bien la scène humoristique québécoise contemporaine. Les humoristes féminines, leur corps, leur rapport à la scène, leur ingouvernance, c'est son terrain de jeu. Le mien, c'est surtout centré sur l'énonciation intime des superstars se proclamant féministes. Mm-hmm. Et c'est par la bande que je vais venir puiser les mécanismes de l'humour pour mieux comprendre qu'est-ce que ce féminisme dédominant.
Moi, j'ai déjà une question pour Joyce. Est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de femmes ou tu trouves que c'est un chiffre qui est constant depuis genre les...
Dans l'industrie de l'humour au Québec?
Oui.
Non, il y a de plus en plus de femmes.
Oui.
Puis la voix des femmes est plus affirmée. Aussi, parce qu'on sait que déjà, là, j'ai l'image de l'écrivain qui me vient en tête parce que je suis une littéraire, mais déjà trouver sa voix quand on écrit, de trouver sa personnalité en tant que créateur, c'est difficile. Mais tu l'as dit un peu en introduction, pour les femmes, c'est doublement mm-hmm. difficile. Puis le fait qu'il y en a de plus en plus, en fait, ça, je crois que ça donne un bon modèle pour, okay. celles qui s'en viennent. Leur donner peut-être des...
Quelque chose de varié.
C'est ça, des indices, des moyens pour elles-mêmes trouver leur...
Et pas juste la manière Lise Dion.
Ou la manière Cathy Gauthier.
C'est ça,
oui,
exactement.
Moi aussi, j'ai une petite question. Dans les soirées d'humour, est-ce que le nombre de femmes tend à augmenter pour les soirées de la relève ou...
Sur scène?
Sur scène,
oui. Oui, oui, okay. Oui, c'est ça. C'est vraiment une tendance. C'est sûr que depuis la dernière année, je traîne un peu moins dans les soirées d'humour parce que dans mon processus de rédaction de thèse...
Faut bien écrire.
Je suis beaucoup dans la théorie en ce moment, je vous dirais. Mais il y a quelques années, j'étais vraiment assidue. Puis je me souviens, il y a une soirée, entre autres, où j'allais souvent à l'hémisphère gauche, où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même... On devait avoir au moins trois femmes par soir, deux à trois femmes par soir, dont une chroniqueuse qui revenait tout le temps. Puis pour moi, je me souviens que ça m'avait vraiment surprise. Mm-hmm. Parce que dans le temps, il n'y avait pas encore dans l'industrie, c'est-à-dire... plus connus, là, je veux dire, les gens qui passent à la télé, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais dans les soirées du mois, il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs à cette soirée-là que j'ai eu cette idée de recherche qui est okay. side project, qui est devenu finalement mon projet de thèse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, en fait, il n'y en avait pas beaucoup, pourquoi il y en a plus maintenant, et quels sont les enjeux reliés à cette amélioration-là, finalement.
Merci.
Et bon, comme Sandrine disait, on est un peu chacun dans notre petite spécificité de l'enjeu de l'humour au féminin. Mais là où on se rejoint, en fait, c'est dans l'intérêt porté à cette force à voix des femmes, la voix de chacune, leur voix toute ensemble et leur impact dans l'espace public, dans l'imaginaire social. Et on se demande qu'est-ce que ça signifie de nos jours pour une femme de prendre la parole dans les espaces publics. Sur scène, sur Twitter ou sur Instagram, même bataille, nous nous intéressons aux crans de ces femmes devant tous et chacun, à celles qui se donnent à voir au lieu de se faire voir, à celles qui savent habilement créer un espace spécifique au féminin dans la culture. On se rejoint donc dans nos recherches d'emblée parce que nous posons qu'il n'est pas un secret que la parole n'est pas un espace acquis pour les femmes. Et Lucie Joubert, on va la citer beaucoup parce qu'en fait, elle est vraiment dans nos corpus à nous deux. Mm-hmm. Puis c'est drôle, on s'est rencontrés au colloque sur un panel sur l'humour à femmes ingouvernables. Ouais. Puis on parlait toutes de Lucie Joubert.
Mais ça se trouve aussi dire que l'humour, c'est comme pas beaucoup traité en littérature.
C'est ça, c'est pas un sujet qui est...
Très valorisé. Mm-hmm. Puis Lucie Joubert, c'est un peu tout seul pour le moment. Là.
Oui, oui.
Donc, oui, Lucie Joubert, dont je l'ai dit, chercheur dont les travaux font partie de nos deux corpus, évoque une époque où elle-même se faisait dire, et je cite, « Une jeune fille doit bien se faire voir et bien se faire entendre. » Par bien, elle entend de ce qui est convenable, de ce que l'on attend des femmes, parce que, je cite encore, « C'est difficile d'être drôle quand il faut rester décente. » Ça n'a rien à voir avec un choix, ça n'a rien à voir avec l'expression de soi. Il s'agit en fait d'une question de conditionnement. Comment alors habiter la scène? Comment investir le pouvoir politique de l'humour s'il faut être convenable? Mariana Madza évoque ce conditionnement au silence à l'origine de son projet derrière son premier One Woman Show,
Femme ta
gueule. Le seul problème, en gros guillemets, qu'elle avait à l'école, elle dit que c'est de ne pas lever la main avant de parler, ne pas demander la permission. Pourtant, c'est bien là sa force en tant qu'humoriste. Quand elle s'arrête de parler, on se demande pourquoi il y a un vide. En fait, elle prend toute la place, elle habite son espace, et quand elle est sur scène, elle en déborde. Reine de son espace, elle piétine tous ceux qui lui ont interdit de parler, tous ceux qui lui ont dit « ferme ta gueule », puis j'ai envie de dire « ferme ta gueule, femme », avec la virgule, puis tout. Bref, non seulement nous nous intéressons à la force de la voix des femmes, mais à l'ingouvernabilité de cette voix, à savoir comment cette force prend racine dans l'irrévérence, dans une position créatrice libre de tout ce qu'on attend des femmes, parce que, et je cite encore Joubert, « prendre la parole », et à plus forte raison, utiliser cette parole pour faire rire la galerie, courir le risque d'être ridicule, tout cela rond avec l'image figée, codifiée de la féminité. Je vais faire un petit détour vers l'anecdotique. Il y a eu en 2013, Juste pour avoir organisé une série de galas avec pour thématique les péchés capitaux. On pourra en discuter, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps ici, mais je vous laisse imaginer. Mariana est invitée par François Bellefeuille, humoriste reconnu pour son ton colérique, justement pour le gala sur la colère. Son numéro s'intitule « Du sable dans le vagin mm-hmm. ».
Dont on a entendu
l'extrait en introduction. D'ailleurs, c'est le fun, on s'est pas parlé, mais ça fit full. Je capote. Nous reviendrons au caractère anatomique du propos, mais nous allons nous attarder un instant sur l'insulte. En effet, juste pour rire, croyez à tort qu'il s'agit d'une expression inventée par Mariana. Elle explique en entrevue qu'il s'agit d'une expression courante.
Ça, je trouve ça dingue qu'il connaissait pas ça.
C'est vrai, hein? Ouais. Moi aussi.
J'ai envie de dire, faut bien être un gars pour pas connaître ça.
Ouais.
Ben,
en tout cas, mais... je dis ça, là, je lance ça dans le vent.
Mais même les gars le disent. Le nombre de fois que moi et mes amis, on s'est fait dire, t'as-tu du sable dans le vagin?
Ben oui, je sais, mais il faut bien pas être une femme pour justement pas l'avoir entendu.
Courant.
En tout cas, c'est ça. À moins de l'avoir dit comme homme, là. Mm-hmm. Mais
ben, je me souviens, moi aussi, ça m'avait vraiment surprise qu'il soit pas au courant.
Terrible. Je te laisse continuer.
Bref, demander à une femme si elle a du sable dans le vagin et qu'il va lui demander, es-tu dans ta semaine? Il s'agit de justifier la frustration d'une femme par une phrase préconçue centrée sur le sexe, car il y a de cela dans la colère des femmes. Vite, il faut la justifier, l'encadrer, la pointer du doigt, l'empêcher de déborder, remettre les troupes dans les rangs. Voilà pourquoi l'humour de Mariana est à tort désigné de vulgaire. Le vulgaire en humour, selon elle, est ce qui est gratuit, facile et irréfléchi. Elle affirme, et je cite, « J'ai la chance et l'opportunité d'avoir un micro et un public, et si j'ai à dire quelque chose, ce sera de la façon la plus claire et la plus directe, la plus crue parce que je m'exprime ainsi, mais pas la plus gratuite. » Au sujet du numéro du sable dans le vagin, elle précise d'ailleurs qu'elle fait exprès de surutiliser le mot « vagin », ce mot poétique qui est synonyme de vie, de plaisir, d'amour et de désir. C'est en détournant cet encadrement de la colère des femmes que Mariana se démarque, fait un doigt d'honneur, bien droit, bien dressé, une colère lancée en l'air, levée vers le ciel. Nous en venons donc à ce fameux scandale, celui où Sugar Sammy, en plein gala des Oliviers, s'adonna à une blague misogyne, celle-là bien gratuite, envers Mariana. Sa réaction spontanée fut de se durcir les traits et de faire un doigt d'honneur à Sammy, devant toute l'industrie du spectacle, devant le Québec en entier. Je cite, « J'étais pas pour rire tout de suite. Montrer que c'est pas grave, que j'ai le sens de l'humour et que je trouvais ça attendrissant parce que Sammy, au fond, c'est mon ami, puis je savais qu'elle a fait une blague dure sur moi. » Je me suis dit, l'espace d'un moment, comment répondre à un humoriste qui fait une blague sur une humoriste? C'est d'être plus forte que lui, de ne pas l'accepter passivement. En entrevue, elle répond à un vétéran de Jean-Luc Mongrain, en entrevue, qui désigne la blague de Samy et la réaction de Maza comme vulgaire, que dans « Doigt d'honneur », il y a le mot « honneur », M. Mongrain. Je terminerai en traitant rapidement d'une question qui vous trotte probablement dans la tête depuis le début de notre entretien. Est-ce que l'humour a un sexe? Non. Mais comme dans toute autre forme littéraire, l'écriture des femmes est spécifique parce qu'elle a des enjeux et une voix spécifique. Un texte humoristique écrit par un homme pour une femme humoriste n'aura pas la même tonalité, la même identité, la même vérité que s'il est écrit par une femme. Il me semble justement que de nier la spécificité de l'écriture humoristique des femmes est, et je cite Foucault, le propre de la répression, injonction à disparaître, mais aussi comme injonction au silence, affirmation d'inexistence et constat, par conséquent, que de tout cela il n'y a rien à dire, ni à voir, ni à savoir.
Ça me fait penser à une citation de Kathleen Hanna, la meneuse du groupe Bikini Kill, dans le documentaire qui a eu lieu sur elle, qui s'appelle The Punk Senior. À la fin, elle dit « Tout ce qui est dit par une femme, il y a tout le temps un doute. » Si c'est la même chose, autrement dit, si c'était la même chose dite par un homme, c'est comme si c'est la vérité. Mm-hmm. Une femme peut jamais vraiment dire la vérité. Il y a tout le temps un doute.
Ben, c'est comme si l'énonciation des femmes devait toujours être évaluée. Oui, c'est comme, ça. OK, ouais, ce que tu dis, je vais voir si ça fait mon affaire, si ça cadre dans l'espace de parole que moi, je t'ai donné.
Oui, c'est ça, c'est qu'on revient à la question que, justement, ce qui est le masculin, l'universel, et ce qui est la femme, jamais. Mm-hmm. Puis je me suis rendu compte, en retombant sur une citation, puis je digresse un peu, mais pas vraiment, que même dans Une chambre à soi, Virginia Woolf avait un commentaire là-dessus. Elle disait que le football et je ne sais plus tout quoi d'autre, c'était des mondanités, alors que le shopping et je ne sais pas quoi d'autre, c'était des frivolités. C'est comme le sport versus les trucs de filles. Puis je sais que toi, tu travailles beaucoup là-dessus, Hélène, justement, la dévalorisation des choses de femmes. Là. Donc, on est là-dedans, là, effectivement.
Et donc, oui, pour terminer, par le fait même, il serait plus utile, on s'entend pour le patriarcat, de nier la spécificité des femmes, repositionnant une fois de plus la logique de l'homme comme logique première. D'ailleurs, j'ai déjà insinué l'humour est pouvoir. Il l'est dans la mesure première où il s'agit d'un discours littéraire et que tous les discours sont inévitablement instaurés dans une relation de pouvoir, mais posant aussi l'inévitable enjeu de la performance. Car est-ce que l'humour peut être de l'humour sans son public, sans la mise en scène du texte? Certains diront que des textes écrits peuvent être drôles, pas besoin de se le faire performer, mais doit-on rappeler que les textes drôles font rire des lecteurs et donc qu'il y a bien intention, qu'il y a bien stratégie formulée par un auteur? L'humour, dans le cadre de notre réflexion, serait quelque chose comme une performance littéraire spécifique destinée à faire réagir un spectateur par le rire, destinée à agir. Les projets de Moi et Sandrine sont des projets littéraires, mais aussi des projets politiques, parce que les études féministes, peu importe le domaine de la spécialité, sont toujours motivées par un peu plus, par l'espoir de penser peut-être changer le monde, juste un peu. Et c'est aussi notre sujet d'étude, des artistes qui, elles aussi, s'insèrent dans le monde pour le changer, ou au moins l'ébranler, juste un peu.
Puis là, allons dans le spécifique. Tu l'as dit, Hélène, en commençant, les femmes qui rient et celles qui font rire, ça dérange. Joyce vient d'embrasser un portrait très clairement en revenant sur les questions de bienséance et tout ça. Ça clash avec la conception traditionnelle de la féminité. Ça va pas de pair avec les femmes à la parole facile, les femmes drôles, les femmes qu'on trouve trop loud, qui prennent trop de place, corporellement ou langagièrement. Hein?
Mm-hmm. C'est une conception, mais une attente aussi.
Oui, ouais, tout à fait. Et il y a une auteure que j'aime bien, d'ailleurs, c'est celle qui a comme réfléchi à la figure de l'unruly, là, de l'ingouvernabilité, de Kathleen Rowe. Dans son analyse, elle a fait une analyse de l'humour de la comédienne Roseanne Barr, qui était une comédienne dans un sitcom qui s'appelait Roseanne. Et elle pose un constat qui m'intéresse, auquel je vais arriver, mais juste faire une petite parenthèse sur qu'est-ce qu'était Roseanne, pour que vous ayez une bonne idée.
Parce que ça commence... Oui, c'est l'année 90.
Oui, ça commence à dater là, quand même, et en plus aux États-Unis. Mais donc... Roseanne, c'est un sitcom diffusé de la fin des années 80 à la fin des années 90 sur ABC. Et c'est un sitcom qui est reconnu pour son portrait réaliste de la famille américaine de la classe moyenne. Donc, vous voyez un peu l'ambiance, c'est une famille. Et elle met en vedette Roseanne Barr, donc comédienne qui s'est fait connaître d'abord dans l'univers du stand-up, mais que c'est vraiment la série qui l'a rendue célèbre. Et elle y campe le rôle d'une mère, mais une mère au franc-parler, colorée, une mère, je vais dire autoritaire, là, faute de meilleurs mots, mais ce serait plus bossy, physiquement imposante. Et c'est un rôle qu'on a volontairement calqué sur sa persona de stand-up. Donc, je pense que c'est probablement pour ça que ça porte le même nom que l'actrice, hein, Roseanne Shaw. Et donc, Roe, en observant l'impact du Roseanne Shaw sur l'imaginaire de l'époque, mais aussi sur le traitement réservé à l'actrice elle-même,
Elle montre combien les femmes qui ouvrent la bouche dérangent, mm-hmm. parce que leur corps et leurs paroles débordantes rappellent de façon ostentatoire l'existence de leur sexe et de leur sexualité, deux choses qu'on aime mieux garder cachées. Et là, Rowe dit, et je vais d'une traduction libre, et donc je la cite, « La bouche vorace et musclée de la femme, la bouche qui consomme de la nourriture et produit de la parole à l'excès, est une version plus généralisée de cet autre orifice femelle, le vagin. Ensemble, ils suggèrent une relation intrinsèque entre la graisse, la gourmandise et la sexualité féminine. » En liant ces notions sur le corps féminin, l'idéologie patriarcale exerce un contrôle sur le corps des femmes mm-hmm. et sur la production des textes. Fin de ma citation. Mm-hmm. Et donc, elle va penser tout ce rapport-là entre bouche et sexe. Parce que la femme qui ouvre la bouche, ce ne sont pas les bonnes filles, on les connaît. Les bonnes filles sont celles qui agissent comme il se doit, gardent les lèvres jointes, les genoux bien serrés. Tu l'as dit, un petit rire, là, on n'ouvre pas trop la bouche pour rire. Ils gardent leurs orifices sagement fermés, tous les orifices, jusqu'à ce qu'on leur commande de les mettre à disposition. Comme pour le sexe, la bouche ouverte des femmes gêne parce qu'elle exhale leur refus de toute gouvernance, leur perte de contrôle délibérée. À la bouche débordante, vorace, excessive, trop bruyante, répond le sexe gourmand, curieux, insatiable, et ça, ça fait peur. Mm-hmm. Donc, une femme qui va prendre parole, c'est tout à la fois une femme qui rit, qui crie, qui pleure, qui baise, qui dévore, qui urine, qui jouit. C'est tout un corps qui s'ordonne droit de cité.
Et le droit d'exister aussi.
Ben, c'est ça.
Le
droit
de s'exprimer, d'exister. Ouais,
le droit d'être. Ça. Et je pense, et Joyce aussi, que l'humour féminin offre un potentiel politique lorsqu'il refuse de se complaire dans la honte du corps des femmes. Et donc, il va se faire politique lorsque, plutôt que de déprécier le corps pour ce qu'il a d'imparfait, ou encensé parce qu'il a de sacré, hein, parce que c'est deux versants oui, d'une même médaille, il va devenir vraiment sujet prenant du processus humoristique, et je pense que c'est ce que réussit bien Mariana Mazza, dans tous les extraits qu'on a entendus d'ailleurs. On est d'accord, il ne suffit pas aux humoristes d'aborder des thématiques liées au corps pour enrayer des années de codes sexistes, on le sait, là, combien d'humoristes ont du matériel à n'en plus de femmes qui parlent de leur corps, c'est tout le cas de l'autodérision par exemple. Ça peut marcher l'autodérision, mais c'est aussi souvent juste des femmes qui rient encore des femmes.
Oui, oui.
Donc, je crois qu'on peut dire que le corps des femmes prend de plus en plus de place. Tu as posé la question tout à l'heure. Je pense que le corps prend plus de place, premièrement, d'abord, physiquement, littéralement par le body count. Mm-hmm. Il y a plus de femmes en humour qu'avant. Je pense qu'il y en a plus, j'espère. Il faudrait valider, pas juste sur la scène, mais aussi en écriture humoristique, en production peut-être de séries humoristiques. Donc, l'industrie se transforme et il était temps, on va être d'accord, hein? Mais les corps sont également plus présents dans les matériels humoristiques, dans le contenu lui-même, mais aussi dans la forme, dans la manière dont elle présente une fois soit à l'écran, parce qu'il ne faut pas oublier que le mot peut se porter aussi à l'écran, ou sur la scène dans le stand-up classique. Et là, on va penser par exemple à la magnifique vulve affichée sur le programme du premier One Woman Show de Mariana Mazza, mm-hmm. hein, ou encore aux 30 minutes, j'insiste sur le 30 minutes, qu'a passé Amy Schumer à nous parler de l'odeur de sa vulve devant un Centre Bell bondé le 17 février dernier.
Ça, c'est pour les initiés, donc. Il y avait beaucoup d'initiés, c'est un Centre Bell, mais moi, je n'étais pas au courant qu'elle faisait ça en spectacle.
Ben, elle en parle dans son livre, en fait. Ah oui, okay. Il y a un passage, c'est un passage qui est pris dans son livre. D'ailleurs, elle a sorti un letter special sur Netflix qui semble être cette tournée-là. Donc, si vous voulez ne pas avoir payé le prix du billet, allez sur Netflix,
quand
il est disponible.
C'est toujours une bonne solution.
Ben, c'est ça, c'est disponible depuis deux jours et ça semble être pas mal le même show.
D'accord.
Quand je l'ai lu dans le livre, j'étais pas contente. J'étais là, oh, on rit encore du vagin qui pue. Sans qu'on peut aller ailleurs. Je trouvais pas que ça aidait à nous aimer le corps.
Oui, oui.
Mais on dirait que sur scène, c'est passé autre chose. Okay. Je l'explique pas encore, je vais y réfléchir, mais là, c'est puissant. Peut-être que c'était d'entendre 30 minutes quelqu'un en parler au lieu aussi, de lire rapidement.
T'as aussi l'énergie du public. T'sais, j'en ai parlé tantôt un peu. C'est que l'humour, ça se construit avec les gens qui l'écoutent.
Ah,
aussi.
C'est clair.
Puis un Centre Bell qui rit.
Puis tout ça. Ce que je disais justement, sa gestuelle à elle. T'sais.
Son delivery.
Ouais, qui
est
exact.
Super important.
Puis dernier exemple, je vais me permettre de saluer aussi au passage ma série humoristique préférée. Là, si vous n'avez pas encore écouté ça, c'est le moment. Il y a une dernière saison qui va sortir, Broad City, Delana Glazer et A.B. Jacobson. C'est une série dans laquelle le corps des femmes et particulièrement le corps génital des femmes devient presque le personnage principal. C'est pas des jokes, là, c'est lui le personnage principal.
Et donc, au colloque où j'ai rencontré Joyce, je me souviens d'avoir dit dans ma communication cette phrase fameuse, je vais quand même la redire parce que c'est le fun à dire, qui n'est pas considéré élégant pour une femme de faire des blagues de flatulence à heure de grande écoute, mais qu'il est carrément du domaine de la science-fiction qu'elle y fasse une blague de flatulence vaginale.
Oh,
et donc, oui. Je crois que la science-fiction est en train de passer doucement vers le réel. Bon, bien sûr, la question, c'est pas de faire de la vulgarité. Puis là, j'ai trouvé ça super intéressant ce que tu as dit sur la vulgarité. Mm. Je vais me le noter puis y revenir, là, que c'est pas conforme vulgaire et gratuit. Mais bref, la question est pas de faire de la vulgarité la mesure d'une émancipation des femmes en humour, ni même de sous-entendre que toutes les humoristes féminines sont forcément politiques. Mm-hmm. Je pense qu'il s'agit plutôt de rappeler qu'elles participent de facto à une forme de contre-dispositif au système, du simple fait de se donner en spectacle, tu l'as dit dans ton introduction, de se mettre en scène corporellement, leur sexe aussi, de parler fort, de rire. Donc, par le simple fait d'être des femmes, elles sont comme en porte-à-faux avec le discours dominant humoristique. Et là, on s'entend que c'est pas nouveau, hein, parce que là, on aime bien parler des nouvelles humoristes. On pourrait penser à une Mae West, une Joan Rivers, une Rosen Barr, justement, peut-être même une Lucille Ball là, de I mm-hmm, Love Lucy. Mm-hmm. Elle avait sa part d'irrévérence. Mais, donc, c'est pas nouveau que les femmes résistent au carcan que l'humour leur impose. Mais là, je sens vraiment un ras-de-bol moins tolérant, plus grinçant et surtout groupé. On est à plusieurs à le faire. Et c'est vraiment un appel collectif. Et c'est ce qu'elle a dit, d'ailleurs. Elle a clos... Ah non, je suis pas rendue là. Ça faisait pas 15 minutes, Amy Schumer, qu'elle avait commencé son spectacle. Elle abordait la question du corps. Et c'était... Je vous dis, j'ai regardé parce que je l'ai enregistré illégalement. Allô, c'est trop belle. On avait pas le droit au cellulaire. Non, non, j'ai tout enregistré.
Comment t'as fait?
Ben, avec mon cellulaire, l'audio.
Okay,
ça a super bien marché.
Ingouvernable, sans doute.
Ouais,
écoutez, c'est pour ma thèse, on prend les grands moyens. Bref, elle parle de sa vulve et encore, parce qu'elle s'autonome The girl that talks about her pussy all the time, c'est assez cohérent. Puis elle dit I like to talk about my pussy, first of all, because it's on my mind. Je trouve que c'est une première bonne raison. But also because I wish we were raised more like men. Et là, elle va questionner la foule pour savoir si quelqu'un ou quelqu'une a déjà rencontré un homme qui, après avoir éjaculé, se serait excusé devant le goût ou la texture de son sperme. Puis là, évidemment, toute la foule rit devant l'absurdité éloquente en soi de la situation. Et là, Schumer conclut en disant « We are so raised to be ashamed of our bodies, we need to be more like men, meaning that they were never raised to hate themselves, to question every part of their bodies. » Et ça, c'est à 13 minutes dans un spectacle d'une heure et demie.
C'est, ça, ouais. Ça fesse, là.
Je trouvais que ça donnait le ton, tu sais.
Ça met le doigt aussi sur un truc qu'on a discuté beaucoup ensemble en se préparant ici, mais on en parle un peu moins dans ce qu'on a décidé de focusser, ouais. Finalement. Mais de... parler, désacraliser le corps en en parlant beaucoup, c'est une façon de se le réapproprier. Puis c'est en se le réappropriant que les femmes vont pouvoir se sortir aussi de la fatalité
ouais, c'est ça,
de parler
peut-être
du corps. Finalement.
De tomber dans une banalité ouais. Ensuite.
Oui, mm-hmm. C'est ça.
Plusieurs étapes.
J'entends beaucoup le discours humoristique par rapport au corps féminin, parce que j'aime beaucoup rire puis ça m'intéresse beaucoup, mais il y a tout un pan aussi de body positivity, hashtag body, ouais. Body positivity qui passe par des espèces de photos artistiques aussi en même temps, donc une politisation différente du corps de la femme qui est plus dans la beauté, une sorte de délicatesse et d'élégance aussi qui fait plus peut-être avec les manières classiques et traditionnelles de cadrer les femmes, mais qui sont quand même bien parce qu'on voit des femmes... qui ont des plis.
Mais élégants.
Mais élégants.
Ben la photo qu'elle a prise. Ben là, je suis bien dans Amy Schumer, justement. Elle a pris une photo nue.
Oui, puis elle a des plis, en effet. Avec un verre de lait, là.
Elle dit, ouais, exact. Puis elle commence, en fait, avec ça qu'elle ouvre le show. Elle dit, j'ai mis une photo de moi nue et c'est devenu viral. C'est la photo la plus commentée. Elle dit, puis là, j'ai entendu le mot que chaque femme qui met une photo de soi nue ne veut jamais entendre. Puis là, tout le monde attend. Elle a tué le suspense. Puis elle dit, brave.
Ah, oui.
Puis là, c'était très drôle, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça dit sur elle si tout le monde dit « Oh, you're so brave! » Elle dit « Pensez-vous qu'on aurait dit ça? » Je sais pas quel mannequin. En tout cas, parenthèse, mais oui, tout à fait. Je pense que, comme pour le féministe, on parle de féministe pluriel.
Au pluriel, oui.
Il faudrait ces représentations-là plurielles aussi, oui.
Mm-hmm. Puis je trouve aussi ça vraiment important que des femmes humoristes utilisent de plus en plus l'humour féministe, parce qu'il y a toujours une tendance aussi que, quand c'est en blague, on fait un point, ça passe mieux, ça devient plus banal. Quand les gens peuvent en rire, souvent, ils peuvent peut-être plus... comme ça, les fait réaliser, des fois, qu'il y a des méconceptions qu'ils ont de la femme.
Oui, ben, tout à fait, de l'humour pour ça, oui.
Mm-hmm.
Puis là, c'est ça. Puis là, on se retrouve au Québec. Tu vas en parler, Joanie, fait que je vais juste faire allusion okay. très rapidement, mais on a des humoristes qui se dressent en bloc contre le grand Manitou, M. Gilbert Rozon, pour lui affirmer haut et fort qu'il n'y a pas question de se faire cantonner dans un gala réducteur. Quand Amy Schumer s'allie à Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus et Patricia Arquette dans un sketch viral dénonçant l'omerta d'Hollywood sur le corps des femmes vieillissantes. Vous avez pas vu
et
ça? Ça s'appelle The Last Fuckable Day. Googlez ça puis allez écouter ça.
Oh, wow.
Ou quand Amy Poehler, Tina Fey dénonce en plein gala des Golden Globes les agressions sexuelles de Bill Cosby. Quand Tig Notaro monte sur scène pour faire son stand-up le torse nu en exposant les cicatrices de sa double mastectomie, là, on est dans le vent des actes de résistance et des voix dressées. Alors, je pense que si on doit retenir quelque chose, et je vais terminer avec ça aujourd'hui, durant cette journée internationale des droits des femmes, c'est vraiment que les femmes en humour ne veulent plus jouer les mêmes codes qu'avant. Et surtout, et là, on en a parlé, elles ne veulent plus être l'humoriste de service, cette femme placée à la fin d'un line-up pour cocher la case. Ah oui, on avait une femme, c'est beau.
C'est au milieu habituellement, là.
Ouais, c'est vrai.
La fin, ça serait déjà hot.
J'avoue, t'as raison, c'est comme un statement.
Même souvent, c'est au début pour s'en débarrasser, comme tu sais, le moins bon début, puis comme on garde les hommes pour la fin.
Ouais, ben c'est ça. Mais là, j'ai l'impression que ça suffit plus, là. Justement, c'est plus. Ah, ben Cathy Gauthier est là, tu sais. Elle est là, puis elle est vulgaire. Non, non, c'est comme un raz-de-marée. En tout cas, j'espère un raz-de-marée. Et d'ailleurs, en s'éloignant la foule, Amy Schumer, ben je vous dis, j'ai tout.
Tu l'as tapé.
Ben, je l'ai tapé, puis ça fait même pas un mois. Puis je voulais faire femme et humour à cause de sa venue. Fait qu'on va en parler. On s'entend qu'il y a pas juste. Je l'encense pas parce qu'Amy Schumer, elle a des faux pas en masse aussi de son côté, hein, comme Mariana d'ailleurs. Mais elle a dit des choses et on va les penser. Et justement, elle termine son passage à Montréal en appelant tous les humoristes du Québec à prendre assaut la scène. Et elle leur a dit que si elle pouvait faire son spectacle, un stand-up, là, pied de micro, tabouret, bouteille d'eau, devant un Madison Square Garden à guichet fermé, so could they. Et donc, quelque chose est en marche, je pense. Hein? Humoriste, stand-up, scénariste, imitatrice, réalisatrice, écrivaine, productrice. Je pense que les femmes en humour semblent faire front commun comme jamais. Et franchement, ça fait plaisir à voir.
Oui, absolument.
Ouais.
Et le fait que... moi, je sens pas d'effet autour de moi quand je fais rire. Même si même s'il y a des choses qui se passent probablement... porte close là, donc je ne suis pas au courant, mais au moins genre je j'ai jamais eu peur de faire rire là, à tout le moins, puis ça c'est quand même très réconfortant. Et j'ai de moins en moins, j'y pense de moins en moins, comme
c'est fou, hein, mais je trouve que notre génération, c'est intéressant parce que je fais souvent allusion au fait que bon, ben allô maman, je t'aime quand même là, mais quand j'étais jeune, ma mère me disait de pas crier comme une marchande de poissons. Mais elle disait pas ça à mon frère quand il criait, tu sais. Puis ça m'a longtemps atteinte. J'avais vraiment l'impression que j'étais une grosse masse sans classe. Je sais pas comment décrire ça autrement. Puis maintenant, ben, je suis fière là, de crier comme une marchande de poissons à l'occasion.
Oui, oui. Moi, ma mère rit très peu.
Ouais,
quand elle rit, je suis comme... Ah! Son rire est étrange parce que j'ai l'impression qu'elle s'est faite apprendre... De pas rire fort, de pas montrer ça, de pas montrer...
On va espérer que ce soit pas cyclique, on va se battre très fort.
Oui, bon, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on fait l'émission.
Exact.
Donc, Joanie, tu veux nous parler, on l'a un peu teasé, là, tu veux nous parler du gala entièrement féminin.
Exactement. En fait, il va avoir le 35e festival Juste pour rire cet été. Les galas Vidéotron Juste pour rire vont présenter cette année le thème qui est le thème de l'ADN. Donc, ils veulent vraiment décortiquer les styles d'humour. Donc, il va y avoir plusieurs galas, dont Juste personnage, Juste engagé et ainsi de suite. Et il y a aussi, ils ont annoncé au début qu'il allait avoir un gala Juste féminin. Donc, ça, c'est la dernière catégorie du gala. Et bien entendu, ça l'a fait parler. En fait,
quand ça a été annoncé? Donc, peux-tu nous rappeler les dates?
Oui, ça a été annoncé le 29 novembre 2016.
D'accord, donc automne dernier.
Okay. En automne dernier, c'est ça. Donc, ça a été annoncé là. Et déjà là, aussitôt que ça a été annoncé, la journée même, il y avait des articles, il y avait des humoristes qui se sont insurgés, des questionnements qui ont été posés.
Ça s'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux.
Oui, exactement. Mmh. Ouais, Virginie...
Il y a les deux, hein, aussi. Il y a des humoristes qui disaient,
oui, c'est ça.
C'est pas si pire,
ouais,
c'est fun.
Exactement. T'sais. Il y a eu des commentaires.
Réjouissez-vous, mesdames, vous avez enfin votre gala.
Oui, ben c'est ça. Justement, les réactions ont vraiment été mitigées. Entre autres, il y a Virginie Fortin et Cathy Gauthier qui ont vraiment parlé contre ce gala-là. Ils étaient vraiment fâchés parce qu'ils disaient qu'en fait, pourquoi est-ce qu'une femme, c'est un style d'humour? Comme toutes les femmes humoristes ont des styles d'humour différents, on devrait pas juste les tasser dans une catégorie. Aussi, on peut se demander si c'est vraiment pour donner plus de place aux femmes, pour leur accorder un gros gala juste pour elles, pour comme leur souligner leur présence dans l'industrie ou c'est juste pour les tasser d'un côté puis pas être obligé de les mettre dans les autres galas. Donc, il y a vraiment cet effet-là de est-ce qu'on ghettoise les femmes ou justement on leur donne la place qui leur revient de droit. Finalement, une semaine après, environ le 5 décembre 2016, le gala a été annulé, le gala juste féminin, qui a été remplacé par le gala juste sketch. Mais même si ça a été annulé, je pense que c'est important d'en parler.
Oui, pis, absolument.
De soulever des questions par rapport à qu'est-ce que le fait d'avoir un tel gala, d'avoir eu l'idée d'avoir fait un gala féminin, ça a dit sur l'industrie de l'humour et la place qui est réservée aux femmes au Québec.
Je tiens à dire, c'est quand même l'industrie institutionnalisée de l'humour au Québec.
Oui, c'est ça.
Parce que juste pour rire... une masse incroyable là, depuis une trentaine d'années, mais il y a de plus en plus une industrie parallèle, un peu plus marginale, qui est en train de se développer avec justement, tu sais, Sexe Légal, Virginie Fortin, qui ont le Dr Mobilo Fest.
Exactement.
Si je ne me trompe pas.
Dr Mobilo Aquafest.
Aquafest.
Oui.
Il me manquait le mot aqua. Et il y a plusieurs soirées d'humour dans des bars. Je pense que toutes les bars ont leurs soirées d'humour. En marge là, de Juste pour rire. Là.
Oui, oui, exactement.
Mais quoi que j'imagine qu'il y a des recruteurs de talent de Juste pour rire qui,
oh, ouais.
qui regardent tout ça, mais c'est, l'importance de Juste pour rire est à souligner, mais il y a quelque chose qui se passe en parallèle aussi.
C'est vrai, oui, il y a toujours... honnêtement, il y a plusieurs soirées d'humour qui sont consacrées aux humoristes de la relève. Il y en a de plus en plus dans les bars. Même, je pense que tous les jours de la semaine, c'est possible de voir de l'humour. Donc, c'est vraiment... pas difficile, mais c'est sûr que Juste pour rire, c'est vraiment une institution. C'est comme, quand on pense à l'humour au Québec, on pense souvent à Juste pour rire en premier, puis à Gilbert Rozon. Donc, tu sais, c'est... Je pense que aussi le choc est venu d'une grosse organisation comme ça a décidé de faire un gala juste féminin. Donc, ouais, comme j'ai dit, plusieurs humoristes qui se sont... qui ont communiqué leur mécontentement par rapport à ce gala juste féminin-là. Donc, dont Virginie Fortin et Cathy Gauthier, je l'ai mentionné plus tard. Virginie Fortin avait publié deux publications Facebook qui parlaient entièrement de ce gala juste féminin-là. Et elle a écrit sur ce post-là une citation que je vais nommer. Elle a dit « D'ailleurs, j'ai toujours eu un petit malaise avec les shows de filles thématiques, alors que depuis le début des temps, un show avec 8 gars, c'est juste considéré comme un show d'humour normal, pas un show spécial drôle de monsieur. »
Donc, tout à fait, exactement.
Ouais, je pense que ça en dit beaucoup que quand on met juste des femmes ensemble, c'est automatiquement un show de fifi. Ils vont parler de menstruation, de shopping, de leur chum, tout ça.
Ça serait le fun de parler de menstruation, ça se parle même pas.
C'est vrai.
Ouais, ça serait parler de leur chum, puis de...
Ouais, du fait qu'ils veulent être mères, de leurs enfants, exactement. Mais par contre, si on fait une soirée d'humour juste composée d'hommes qui vont parler d'aller au gym puis de boire des shakes...
Et de leurs femmes.
Et de leurs femmes. Puis là, leurs femmes qui veulent aller cueillir des pommes. Mais ça, c'est juste une soirée d'humour bien normale.
Régulière, oui.
C'est exactement. Aussi, Cathy Gauthier, elle a mentionné qu'elle a vraiment un problème de dire qu'on parle toujours des femmes en humour comme justement des femmes en humour. Mm-hmm. Elle a dit « Je suis pas une femme en humour, je suis une humoriste. Et pourquoi est-ce qu'on dit pas des hommes en humour? Comme, je suis une humoriste, puis je fais pas de l'humour de femme, je fais de l'humour de Cathy Gauthier, puis je fais pas de l'humour de gars non plus. C'est juste mon style d'humour à moi qui est une personne à part entière. »
Ça me fait vraiment beaucoup penser au discours qu'on a dans le rock sur Women in Rock, là, les femmes qui font... les femmes de rock, les femmes qui font du rock,
mm-hmm.
à quel point elles sont souvent justement mises de l'avant comme étant, non pas des musiciennes ou des musiciennes rock, mais tu sais, des femmes qui font du rock. Alors
c'est
que
ça.
C'est ça, il y a très très peu de... Non, il y en a jamais. Là. Les seules fois que j'ai vu des espèces de reportages Men in Rock, c'était pour niaiser.
Ouais.
C'était pour démontrer l'absurdité du traitement réservé aux femmes qui font du rock, qui brassent la cage un peu plus. C'est ça, il y a beaucoup de parallèles à faire, en fait, entre le rock et l'humour, à ce point de vue-là.
Oui, mais je pense, en fait, qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec plusieurs aspects de la vie et les femmes que... Quand une femme va faire un métier ou un passe-temps qui n'est pas considéré comme féminin, ben là, ça va être automatiquement une femme en ça.
Oui.
Ce ne sera pas juste comme une femme qui aime ça ou...
Oui, puis les métiers réservés aux femmes, c'est des trucs souvent réservés avec les enfants.
Exactement.
Puis le bien-être aussi, les relations d'aide.
Peut-être plus prescrit que réservé, mais... C'est que tu voulais dire peut-être plus prescrit pour les femmes que réservé aux femmes.
Ah, ouais. Ben, qui sont traditionnellement, on pense à des femmes, qu'on pense à des éducatrices en garderie. Psychologues, je dirais que c'est 50-50, mais des intervenants, souvent c'est des intervenantes, donc toutes les relations d'aide. En fait, qu'est-ce que je veux dire, c'est que les métiers prescrits, ou je sais pas, traditionnellement réservés aux femmes...
C'était juste pour comprendre ce que...
traditionnellement réservés aux femmes sont très restreints. Il y en a quelques-uns à peine.
Ouais, c'est vrai.
Puis on parle comme...
Puis aussi qu'une femme fait un métier auquel on ne s'attend pas à ce qu'elle soit là, elle va être marginalisée automatiquement. Mm-hmm. Puis même en humour, j'ai lu beaucoup d'articles qui parlent de ghettoisation des femmes. Donc ça, c'est carrément les mettre à l'écart de la société de l'humour. Comme, tu sais, on les invite pas dans les galas. Premièrement, les femmes n'animent que vraiment rarement des galas. Puis quand elles peuvent animer des galas, je parle de beaucoup de Juste pour rire, ils vont toujours être avec un homme, au moins. Donc, une femme seule n'a jamais animé un gala Juste pour rire, de ce que j'ai lu.
Ah oui? Même pas Dominique Michel? Elle était tout le temps avec un homme.
Ça se peut, je sais pas. En fait, je suis pas remontée jusque-là.
Ah, OK. Mais Dominique Michel me rappelle qu'au début du Juste pour rire, elle était très présente, mais ça me surprendrait pas qu'elle ait tout le temps été épaulée par... qu'il ait tout le temps eu, effectivement, un match avec un homme. À l'époque, c'était encore un peu en formation. En plus, on savait pas trop...
Oui, c'est vrai.
Des années 80, quand c'était nouveau, là, comme « Ah, un gala! » Il y avait pas de thème à des galas, c'était juste.
On ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'en allait. bien sûr, le point de vue de Virginie Fortin de Cathy Gauthier n'a pas été partagé par tout le monde dans l'industrie. Il y a même Claudine Mercier qui, elle, a trouvé ça vraiment correct de faire un gala juste pour les femmes, a trouvé ça le fun, que ça donne un hommage aux femmes. Il y a aussi Marie-Lise Pilote qu'elle a mentionné dans une entrevue à la presse. Elle a dit « Oui, faisons un gala juste féminin, mais tant qu'à faire ça, on veut que la metteur en scène soit une femme, que les scénaristes soient des femmes, comme que ce soit entièrement fait par des femmes, puis on exige la parité. » Fait que ça, c'est un point de vue que je trouve intéressant aussi.
Est-ce que tu as remarqué, parce que moi, j'ai pas suivi sur les réseaux sociaux, en fait, la controverse en tant que telle, mais est-ce que tu as remarqué que les opinions des femmes, vu qu'ils étaient divergents, est-ce que c'était discrédité? Comme, ils sont même pas d'accord sur ce qu'ils disent... T'as-tu
non,
senti
j'ai
un
pas
peu? Non,
ça, malheureusement,
Parce que ça arrive souvent, tu sais, dans le fond, c'est correct qu'ils aient toute leur opinion là-dessus. Mm-hmm. C'est comme le féminisme. Il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Des fois, on s'estime, puis on argumente, mais on s'aime pareil. C'est normal parce que.
Mais on devrait tout le temps faire preuve d'une solidarité béton.
Ouais. Ben, c'est ça. Puis, c'est facile, puis on le voit souvent que c'est pointé. Ben là, ça, c'est pas féministe de faire ça, pourquoi tu dis ça, puis on sait bien que tu t'entends pas avec ton ami, fait que ça a pas de sens ce que vous dites. T'sais. Fait que je me demandais peut-être que ça allait être intéressant de voir quel genre de réaction ça...
Malheureusement,
Bon, j'ai tout juste fait un travail d'archive Facebook, ça va vraiment être plaisant.
Mais c'est vrai que c'est intéressant souvent dans des publications comme ça, aller voir les commentaires, ce que je fais pas assez souvent, mais des fois, les commentaires en disent beaucoup sur comment le public reçoit un certain...
Ben, Facebook, c'est la place publique, tu sais, fait que c'est quand même une belle mine d'or.
C'est vrai. Ben, à l'avenir, je vais aller voir les commentaires, ça va être intéressant.
pas de toi, par exemple. Pas de toi.
Ah oui, c'est sûr. aussi, mais en fait, c'est pas la première fois que Juste pour rire se fait critiquer par rapport à la place... qu'accorde aux femmes dans l'industrie. En fait, souvent, il y a des femmes qui... Très peu de femmes qui vont être dans les galas. Des fois, on va les mettre en premier même, comme pour dire qu'on se débarrasse d'elles. Puis aussi, en fait, comme j'ai dit, très peu de femmes qui animent des galas, puis quand elles le font, sont jamais toutes seules. Je suis rendue où? Ouais. Christian Villot, ça, c'est le directeur de la programmation pour les galas Juste pour rire. S'est prononcé là-dessus. Lui, en fait, son point de vue, c'est qu'il trouvait qu'en fait, on lançait vraiment une fleur aux femmes en leur accordant un gala, puis c'est parce qu'on voulait vraiment souligner leur place dans l'industrie, puis c'était pour elles. Puis il est même allé jusqu'à dire, je vais citer parce que c'est intéressant, « Je me fais reprocher qu'il n'y a pas assez de filles dans les galas. Je voudrais bien en avoir plus, mais je ne peux pas en inventer non plus. Ma mère est drôle dans un party de famille, mais je ne peux pas la mettre sur scène. »
Oui, c'est une citation assez fameuse. Oui,
exactement. Donc, ça, c'est... C'est drôle, en fait. Et lui, son point de vue, c'est vraiment qu'il y a assez de femmes en humour, puis c'est juste qu'ils peuvent pas les booker parce qu'ils sont trop occupés. Il avait mentionné ça aussi.
Il y a ça, puis le fait qu'il ramène l'humour valide de femmes à une sphère privée, faire rire dans la cuisine, faire rire au salon, alors que,
Ouais, c'est ça. T'sais, les femmes peuvent être drôles, fait que, t'sais, faites des jokes dans les parties de famille puis dans les parties d'amis, mais par exemple, montez pas sur une scène. Ouais.
Quel humoriste va vraiment être trop occupé pour aller
juste faire un galerie
pour rire, je veux dire.
Ouais.
Je sais pas, là. Ben, ça peut être
pas dans leur priorité, là, selon leur, je sais pas, leur vision de leur carrière, mais mm-hmm. c'est quand même gros dans une carrière d'humoriste, oh, ouais, faire un gala, tu peux pas te dire, en tout cas,
je te c'est ça, ouais, ouais. Mais... Comment est-ce que tu peux être trop booké pour dire non à juste pour rire?
Ouais, mais...
Bonne ouais. question.
Aussi, Gilbert Rozon qui avait accordé une entrevue à Salut Bonjour, que je sais pas à quel point son entrevue a fait parler, mais lui, il avait vraiment pas l'air à trouver qu'il y avait une controverse par rapport au gala juste féminin. En fait, lui, il avait, c'était pour répondre au propos de Virginie Fortin qui avait dit que être une femme, ça la catégorisait pas. Il avait dit, ben, je vois pas en quoi être une femme, ça catégorise pas. Il dit, je vois pas en quoi c'est mal de catégoriser les femmes parce que, tu sais, c'est des femmes. Puis il avait dit, en fait, c'est pas, tu sais, on veut pas mal faire. Puis en fait, il a vraiment banalisé pendant son entrevue vraiment toute la polémique du gala juste féminin. Puis il est même allé jusqu'à dire qu'il comprenait. Qui voyaient pas les gens regardant la télé dans leur salon trouver que c'était donc grave faire un gala juste féminin. Et je vais encore faire une citation parce que je trouvais ça intéressant aussi. Il a dit « J'ai de la misère à prendre ça très au sérieux et ce n'est pas le but d'un gala comme celui-là. Si c'est un thème qui suscite la controverse, qu'ils s'en servent pour faire un meilleur gala. On va peut-être juste mettre des hommes sur scène qui viendront parler des femmes, ce sera peut-être ça. »
Génial.
Ouais.
Non, non, je fais au des secours. Blagues. Je fais des... Ouais, au secours, catastrophe, ouais. Mon Dieu, cauchemar. Mais c'est... Voyons, ça, c'est... genre, ouais. Déjà, juste, est-ce que, en tout cas, moi, avoir été l'intervieweur, là, j'aurais demandé, mais est-ce que vous seriez prêt à appeler un gala juste homme?
Ouais. Puis, ben, j'ai pas...
C'est ça, la logique, c'est que quand on pense à humoriste, on pense de facto à un monsieur qui fait des blagues sur une scène. Ouais. C'est ça le problème.
Ouais, exactement, c'est ça. Puis ça, j'avais été déçue un peu parce que j'avais pas vu qu'il y avait eu beaucoup de réactions de la part des animateurs de Juste pour rire.
De Juste pour rire ou de Salut Bonjour?
Bon, je me suis trompée. Salut Bonjour, je suis désolée.
Ben,
ouais.
Okay.
Mais ouais, fait qu'il y avait pas eu trop de réactions. Moi, je m'attendais au moins une réaction de l'animatrice, mais non. Mais bon. Finalement aussi, à la suite de ce commentaire-là de Gilbert Rozon, Virginie Fortin avait publié une deuxième publication sur Facebook disant qu'elle avait été vraiment déçue par... elle appelle Gilbert Rozon « Monsieur Humour ». Elle dit « Monsieur Humour nous a fait de la peine, ce qui est un sentiment très féminin ». Donc, elle a fait une petite touche d'humour ici. Puis, en fait, elle a dit qu'il y a des femmes humoristes qui se sont rencontrées pour parler de cette situation-là. Puis, elle avait dit qu'il a fallu se mettre ensemble pour... se décider de ne... qu'on voulait pas être ensemble. Donc, il y a eu une pétition qui a été signée par plusieurs humoristes, pas juste des femmes, des hommes aussi. Donc, finalement, le 5 décembre, le gala a été annulé.
Et remplacé par
le gala juste...
Des sketchs.
Ouais, qui va être animé par Virginie Fortin, Léane Labrèche d'Or et Antoine Vézina. Donc, deux femmes, un homme. Okay. Toujours un homme. Mais c'est comme... Apparemment, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. On espère que ça va changer. Puis aussi, je vais terminer en parlant d'un article qui a été écrit par Judith Lucier dans le journal Métro qui s'intitule « Humour de filles ». Puis en fait, elle s'est fait envoyer un courriel par une personne anonyme de Juste pour rire. Ça, c'est Juste pour rire qui avait envoyé ça à ses humoristes en parlant du gala Juste féminine. Donc ça vaut la peine que je lise au complet. Ça disait « Très important ». Ce gala n'aura rien d'une soirée de fifi. Tout le monde peut proposer un texte pour ce gala. Un numéro tel que celui de Simon Gouache parlant des cheveux de sa blonde aurait tout à fait sa place dans ce gala. Et les filles ne sont pas tenues de parler de menstruation pour envisager participer à ce gala-là. Donc ça, c'est vraiment un courriel envoyé par Juste pour rire. Et en fait, ils ont aussi envoyé des exemples d'idées à développer pour les personnes qui veulent faire le gala. Donc, numéro 1, les femmes. Après, Bono qui est nommée femme de l'année par le magazine Glamour et Wonder Woman ambassadrice de l'UNESCO. Attention, numéro 3, la culture du viol. Les hommes priés de se montrer discrets dans une manifestation sur la culture du viol, 2 points, non-sens.
Ha 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 ha.
Ouais. Donc, aussi, les tabous qui sont encore présents, comme la masturbation chez la femme, la sensibilité des hommes, le fait qu'une femme est considérée émotive quand souvent ceux qui sont le plus émotifs, ce sont les hommes. Ils ne savent tellement pas comment gérer leur surplus d'émotions qu'ils se battent.
Comme, ouais, ça m'est mélange.
Terrible, comme prescription créative.
Ben
ça.
Oui, ça, c'est comme on propose aux humoristes ces idées-là à développer pour un gala juste féminin. Donc, que dire que ça pas.
Mais c'est plus que proposer, c'est comme des balais, c'est un cadre. Ouais. C'est ça, là. Voici les frontières, puis j'espère que tu fites là-dedans. Parce que...
c'est ça. Puis en fait, même si il y a des gens qui pourraient penser que c'est une tentative un peu boiteuse de juste pour être féministe puis de vraiment comme réserver une grande place aux femmes. Mais on voit que même les sujets qui leur disent qu'ils pourraient adopter, c'est pas des sujets féministes pantoute. C'est comme, en fait, ridiculiser un peu les femmes qui se sentent pas à l'aise quand un homme est là, quand il y a des manifestations sur la culture du viol, c'est pas féministe. Tu sais, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait faire des blagues là-dessus. C'est pas un sujet très approprié.
faut être très, très...
Ouais.
Très bon, très bonne. pour rire de ça, c'est pas... c'est... Je dis pas qu'il faut rire de... Je pense pas dans la vie qu'il faut s'interdire de faire de blagues sur des sujets, mais... Ouais. Tabarouette, il y a certains sujets que t'es mieux d'être bon. Tabarouette.
Exactement, que... ouais.
Mais c'est ça nous ramène un peu à... Oh, excusez-moi, plus de temps. Mais oui, j'ai déjà vu, en fait, un show que moi, j'avais organisé quand je travaillais dans une salle de spectacle qui était plein de victimes de viol qui avaient été invitées à être sur scène pour parler... D'accord. Justement de leur expérience. Fait que c'était des blagues sur ça.
Okay.
Mais pour eux, c'était une façon vraiment de dénoncer et de se libérer de ce fardeau-là en tant que victime. Oh. Fait que,
oui, ouais, ça se peut. C'est ouais. juste que ça prend quelque chose quand même d'assez spécial. Puis dans ce cas-ci, c'est des survivantes. Là, ouais. Donc en même temps, il y a un contexte qui se prête à ça. Je vais terminer l'émission avec une super bonne blague. Vous êtes prêtes?
Oui.
Une fois, c'est l'histoire de femme, comprends-tu? Elle voulait rentrer dans l'humour. L'humour s'est tassé, puis ils sont rentrés dans un mur. Il n'y a pas de batterie avec moi, j'ai pas de boudoum-tiche. Fait que c'est ça ma super bonne blague, bien sûr. Merci d'écouter Pop en Stock sur la plateforme iTunes ou sur toute autre plateforme que vous souhaitez. Et merci aussi de mettre des petites étoiles à iTunes. C'est comme ça que... pas à iTunes, à Pop en Stock, c'est comme ça qu'on augmente notre visibilité sur ces plateformes-là. Vous pouvez toujours aussi donner des sous sur Patreon, le Patreon de Pop en Stock, pour qu'on puisse donner nous-mêmes des sous à des artistes qui nous font des différentes œuvres d'art pour Pop en Stock. Pour ma part, je m'appelle Hélène Lorrain et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit la prochaine fois.